Aurélien Scholl, le solitaire. Dans un paysage qui est un véritable décor de théâtre, sur la route de Boissy-la-Rivière, au bord de la Juine, le cycliste peut voir un moulin démonté, dont une partie tombe en ruine. La roue est sous un hangar vermoulu, et les oiseaux viennent faire leur nid entre les palette qui la passe dans un asile tranquille et sûr. Un petit jardin, un culte, précède le logement du meunier depuis longtemps trépassé. Les lierres et les lichens montent jusqu'à la toiture, percés à jour par-ci par-là. La grange seule est à l'abri de la pluie. Dans un coin, se trouvent un lit de fer, une simple couchette, et les murs sont garnis d'étagères sur lesquelles sont placés 300 ou 400 volumes. Là vit seul un homme étranger au pays. Il a acheté le vieux moulin en vente publique pour la somme de 4000 francs. Une femme du village, aussi vieille que le moulin, lui sert de domestique, lave le linge à la rivière et ne dit mot à qui que ce soit. Dans l'après-midi d'une belle journée de juin, on entendit des cris sur la route. Le solitaire accourut et trouva une petite fille épouvantée. Une araignée de jardin s'était posée sur elle et l'enfant n'osait pas bouger. L'inconnu saisit l'araignée et je l'atteins un buisson. Mais comme la petite ne revenait pas de sa terreur, « Viens, mon enfant, on va te donner un verre d'eau sucrée avec un peu de fleur d'oranger, cela te calmera. » La vieille bonne servit l'enfant, à qui l'homme dit, « Je vais te raconter une histoire, puis tu retourneras chez ta maman, le beau. » Il y avait une fois une petite fille qui était bien sage et bien mignonne. Cependant, elle ne pouvait supporter la vie des bêtes laides et les écrasait. Elle était assise un jour sous un cerisier, quand elle vit descendre d'une branche un fil auquel pendait une grosse araignée. Elle prit sa pantoufle pour écraser la bête. Elle sentit sa main retenue. Elle chercha à se lever, mais n'y put réussir. Elle était prise dans une toile grande et solide. Elle eut peur, mais tout à coup, elle s'aperçut que ses membres s'amincissaient et qu'elle pouvait courir légèrement le long des fils. Un fin duvet couvrait tout son corps et ses yeux pénétraient les plus petits détails de toutes les choses. Oh, elle s'admirait elle-même lorsqu'elle sentit un frémissement dans sa toile. Elle se laisse glisser et aperçut un monstre qui la menaçait. Oh, c'était une jeune fille sans doute, mais telle que les araignées doivent la voir. Des touffes énormes de fils gros comme 10 000 de ceux qui filent les araignées s'entassaient sur une peau écailleuse. Des yeux gros qui ressemblaient à des buttes quand ils étaient fermés, de larges trous dans le visage. Voilà ce qu'elle aperçut. Et elle en eut si peur qu'elle remonta le long de son fil et l'interrogea une feuille de cerisier. « Petite feuille, « savez-vous où est le bout de mon fil ?»« Oh, il est, je crois, ce nuage qui flotte au-dessus de vous. » Elle monta encore. « Bon nuage, savez-vous où est le bout de mon fil ?»« Bon, il est, je crois, dans le soleil qui brille sur le monde entier. » Elle monta jusque-là. « Soleil, ami soleil, « sais-tu où est le bout de mon fil ?»« Oh, il pend, je crois, au firmament. » Elle s'éleva vers le firmament, et là elle entendit une grande voix qui lui dit « C'est d'ici que sort tout ce qui est dans le monde. Tout a été ici tour à tour, petite fille et araignée. Sous quelle forme veux-tu retourner sur la terre ?» Elle se mit à pleurer, car elle se rappelait que, petite fille, elle avait trouvé l'araignée bien laide, et que, étant araignée, la petite fille lui avait paru bien affreuse. Mais aussi qu'elle s'était trouvée aussi jolie sous une forme et sous l'autre forme, et elle ne savait quelle partie prendre. Et tout à coup, elle se retrouva sous le cerisier, dans sa jolie robe et avec son doux sourire. De nouveau, elle aperçut devant elle l'araignée, dont elle avait eu si grande peur. Elle contempla avec bienveillance, admirant la finesse de la toile qu'elle lissait. Elle comprit alors que, par un don spécial, l'un de ses yeux était celui d'une petite fille et l'autre celui d'une araignée. L'enfant rentra chez elle et raconta tout ce qui lui était arrivé. « Ce monsieur, ajouta-t-elle, m'a dit qu'il était bien heureux d'avoir des yeux pour voir tout et tout admirer, ce qui plaît à l'un et ce qui plaît à l'autre. Puis il ouvrait les livres, les uns couverts de cuir, les autres de coupons, de soie ou de velours, mais c'était tous des cahiers de papier blanc. Le lendemain, le père de la petite fille, qui était inspecteur des forêts, alla remercier le solitaire de l'accueil qu'il avait fait à son enfant. L'homme du moulin le reçut avec une politesse froide. « Vous avez raconté à monsieur, dit le visiteur, une bien jolie histoire à ma fillette. En avez-vous une pour moi ?» L'homme du moulin prit un volume intitulé « Le vrai » et lut. Strenner était bien le meilleur philosophe qu'il y eut au monde. Tout ce qui gémissait sous quelque oppression venait à lui. Il avait arraché des victimes à tous les tribunaux, des absolutions à tous les juges, des prisonniers à tous les cachots. Il traversait un soir la place d'armes pour aller accomplir quelque acte d'humanité. Ce lieu le faisait toujours frissonner. Là, sur ces mêmes pavés, le glaive, la potence, le bûcher avaient exercé leur ravage. Le sang humain y avait coulé et l'œuvre de Dieu avait été mutilée. En songeant ainsi, il leva les yeux et vit attaché à un pilier une forme étrange qu'il ne connaissait pas. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Je suis une idée. » « Une idée ? Mais les idées sont des abstractions, tout au plus des formes de l'esprit, et nulle d'entre elles ne peut être visible. Tu me vois cependant. As-tu lu la caverne de Platon ? Ah, avoir lu les mortels enchaînés dans un antre, et voyant passer sur les parois l'ombre des idées qui resplendissaient dehors ? Je suis une de ces grandes idées, dont tu vois la représentation dans les choses d'ici-bas. N'as-tu pas entendu les martyrs chanter durant leur supplice ? Ils n'ont qu'une idée pour les soutenir. N'as-tu pas vu des puissances et générations entières lutter contre l'un contre l'autre sans pouvoir les vaincre ? Eh bien, je voudrais savoir avant de te délivrer si tu as une idée fausse ou une idée viva, vraie. Et où te places-tu ? Si tu es à ma droite, je suis une idée vraie. Et si tu es à ma gauche, une idée fausse. Et qui t'a enchaîné au pilori ? Mais toi-même, combien de mes sœurs dans la vie d'homme paisible As-tu ainsi torturé, déchiré, mis au chevalet, abreuvé de souffrance et d'humiliation, parce que ces idées n'étaient pas les tiennes, et qu'en conséquence, tu les jugeais fausses. Pendant ce temps, ton voisin agissait de même pour celle que tu avais adoptée, et tu souffrais alors dans ce que tu avais de plus visible, sensible, dans ta conviction. Mais j'étais de bonne foi. Te croyant fausse, je te croyais funeste. Et ton voisin pensait de même, et il trouvait vrai ce que tu trouvais faux. Le philosophe Stenner s'inclina et détacha la prisonnière qui se leva radieuse dans le ciel de la pensée. À votre avis, reprit l'inspecteur des forêts, le vrai n'existe pas. Et si ce qui est vrai est pour un peu une palette pour l'autre? Oh, tout n'est qu'hypothèse, la matière même. Oh, je vois votre étonnement. Et cependant, si quelque médecin écrivait un livre intitulé « L'esprit, une hypothèse », beaucoup de gens trouveraient cela très intelligible. Tel est l'effet de l'habitude. On trouve naturel qu'on révoque en doute l'immatérialité de l'âme, parce qu'on ne peut ni voir ni sentir au moyen d'organes matériels ce qui est immatériel. Il y a des gens qui ne croient pas au déluge parce qu'ils ne se sont pas noyés dans le cataplysme. Et le bon Malebranche dit qu'il y a beaucoup de médecins qui doutent de l'existence réelle et distincte de l'âme, parce qu'ils n'en ont pas encore disséqué. Mais lorsqu'un médecin ose mettre en question la réalité de la matière, parce que l'esprit qui n'a ni main pour palper, ni œil pour voir, ni oreille pour entendre, ne peut apercevoir immédiatement, on crie à l'absurdité. Cependant, il n'y a pas plus d'absurdité d'un côté que de l'autre. Des deux côtés, on se fonde sur la même raison, l'incompréhensibilité, de façon que, si cette raison prévalait, si l'on pouvait admettre ce qui est incompréhensible, il n'y aurait ni esprit ni matière. On sait que dans le dernier siècle, l'anglais George Berkeley, frappé des progrès du matérialisme, exposa avec une rare sagacité les difficultés qui s'opposent à l'adhésion d'un monde corporel et prétendit positivement qu'il n'y avait de réellement existant que les esprits. Il se fondait sur la proposition incontestable que l'âme ne perçoit que des idées, et que les sens, loin de nous apporter la connaissance des objets extérieurs tels qu'ils sont, ne nous fournissent que les idées de leur qualité. La matière, une hypothèse, demande avec indignation le physicien et le métaphysicien. Mais qu'est-ce donc qui remplit l'espace, ce qui sert de substance aux formes? Qu'est-ce donc, ajoute le vulgaire, que le sol qui nous porte? Qu'est-ce que le bois, le fer que façonnent tant de mains industrieuses? Quels sont les aliments qui suscitent et qui sustentent notre vie? Le corps lui-même qu'ils nourrissent? Que devient ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous touchons de notre main? La matière est l'idée de la substance, dit un écrivain allemand. Le substratum des phénomènes de la nature. Un simple être de raison et par conséquent, une erreur. Monsieur, reprit l'inspecteur, oh, je ne m'étonne plus que d'une chose. Vous avez ouvert deux ou trois volumes de votre bibliothèque et il m'a semblé que c'était des cahiers de papier blanc. En effet, monsieur, l'écriture ou les caractères d'imprimerie sont des obstacles à la pensée. Mais pourquoi sur le de vos volumes, des mots, des titres que ne justifie pas le contenu, puisqu'il n'y en a pas. Dieu, humanité, matière, esprit, le beau, le vrai, le bien, la Bible, le juste, le vrai. Mais monsieur, répondit en se levant l'homme du vieux moulin, c'est que tout cela ne peut se trouver que dans une bibliothèque de papier blanc.